À la fin des années 1970, le monde est en ébullition. Jamais autant de manifestants n'ont appelé à une vie meilleure. Ils sont des millions à crier, à se battre et à rêver à plus de démocratie, plus de liberté, à de meilleurs salaires et à la paix. Partout sur la planète, des femmes revendiquent droit et égalité. Mais tous ces espoirs se sentent à l'étroit dans des sociétés cadenassées par la confrontation glaciale entre les États-Unis et l'URSS. Aucune alternative politique au modèle soviétique ou américain n'est offerte au peuple qui lutte. La guerre froide rythme la géopolitique mondiale. Depuis le début de la décennie, les puissances occidentales connaissent la crise pétrolière, le ralentissement de leurs économies et une augmentation du chômage. Le modèle issu de l'après-guerre vacille. En Angleterre, le gouvernement travailliste de James Callaghan, tenu par ses engagements auprès du Fonds monétaire international, est confronté à un mouvement de grève sans précédent qui paralyse le royaume. En Pologne, le pays, toujours sous le joug soviétique, est paralysé par la dépression économique. La population est marquée par le souvenir de la répression sanglante des grèves de 1970. Mais elle retient son souffle depuis qu'a été élu un pape polonais, Karol Wojtyla. En Chine, épuisé après 30 ans d'oppression maoïste et quelques jours avant la fin de 1978, le Parti communiste confie le sort du pays à un petit homme de 74 ans, Deng Xiaoping. En Iran, le régime du Shah, une dictature féroce et occidentalisée, est sous la pression de manifestations qui tournent à la révolte. Alors que le président américain Jimmy Carter voit toujours en l'Iran un îlot de stabilité, dans la rue, des centaines de milliers d'Iraniens affrontent les forces de l'ordre et l'armée. Tous exigent la fin de la dictature du Shah et le retour à la démocratie. Au début de l'année 1979, le monde est une soufrière prête à s'enflammer à la moindre étincelle. Pourtant, les dirigeants des quatre principales puissances occidentales, comme insensibles aux souffrances de l'époque, ont rendez-vous au soleil sur les plages de la Guadeloupe. Ils semblent ignorer qu'à quelques kilomètres de leur jolie villa s'échappent les fumées menaçantes d'un volcan au nom qui semble prédestiné, la soufrière. Unis sous le soleil de Guadeloupe, les quatre chefs d'État préparent officiellement le prochain sommet du G7 à Tokyo. Comme pour rassurer leur population, ils sont souriants et en bras de chemise. En réalité, ils sont moins sereins. La situation en Iran n'est plus tenable. La dictature du Shah est l'objet de protestations internationales, le pays sombre dans le chaos et les exportations de pétrole sont à l'arrêt. Et la France a un hôte bien gênant. Un exilé iranien détesté par le Shah, dont elle aimerait se débarrasser au plus vite, l'ayatollah Khomeini. Un accord est trouvé entre les quatre hommes. Le Shah devra abdiquer et quitter l'Iran. Et plus important, il décide de présenter le vieil homme que personne ne connaît encore, l'ayatollah Khomeini, comme le nouveau garant d'une stabilité qui préserverait les intérêts économiques occidentaux. Alors que l'ayatollah Khomeini quitte Paris, à l'autre bout du monde, un autre homme d'église, le pape nouvellement élu Jean-Paul II, survole le Mexique. Pour son premier voyage pastoral, face aux évêques d'Amérique latine, le pape a choisi de refuser sans équivoque la théologie de la libération et ses références révolutionnaires. Mais au retour, il cache à la presse son intention de débuter sa réelle croisade contre le communisme dans son pays natal. De l'autre côté de la planète, la Chine a commencé son réveil. Deng Xiaoping, l'ancien compagnon de Mao Tse-tung, excommunié pendant la révolution culturelle, a pris le contrôle du parti et du pays. Au début de l'année 1979, la Grande-Bretagne fait face à un hiver glacial. Depuis des mois, le pays est secoué par les grèves. Le pouvoir du Premier ministre James Callaghan est agonisant. Après d'âpres négociations, le pouvoir polonais accueille Jean-Paul II dans son pays natal. C'est le deuxième voyage de son pontificat. Et il sait qu'il doit jouer une partition bien délicate. Ce n'est pas seulement un homme d'église qui arrive en Pologne, c'est un homme politique qui a décidé de faire de l'église le fer de lance de la reconquête des pays européens encore sous le joug soviétique. Les puissances occidentales commencent à réaliser que le plan élaboré au début de l'année lors de la conférence de Guadeloupe a produit un effet contraire à celui escompté. Le vieil homme barbu qu'ils ont choisi pour remplacer le Shah n'a ni stabilisé l'Iran ni préservé leurs intérêts. Les Occidentaux s'emparent de la figure de l'ayatollah Khomeini, qui devient le totem effrayant de leur peur. La peur de l'islamisme, assimilée bientôt à l'islam, qui quelques années plus tard se répandra sur l'Occident, trouve là ses funestes racines. Pour se libérer des incertitudes géopolitiques et des fluctuations du prix de l'or noir, l'énergie nucléaire est apparue comme un moyen miraculeux d'obtenir une source d'énergie inépuisable et à moindre coût. À l'époque, la télévision française, sur un fond de valse viennoise, présente l'énergie nucléaire comme l'aboutissement de tant d'efforts et d'intelligence humaine, le triomphe parfait des hommes sur la matière. Mais ce rêve devient cauchemar le 28 mars 1979 à Harrisburg aux États-Unis. Le premier accident nucléaire majeur provoque la fusion du combustible d'un des réacteurs de la centrale de Three Mile Island. Les autorités craignent la fusion du cœur et la libération de gaz radioactifs. Les femmes enceintes et les enfants sont évacués dans un rayon de 8 km autour de la centrale. 200 000 personnes fuient la région. La troisième protection de la centrale résistera et l'accident sera contenu. Bien que le président Jimmy Carter ne renonce pas aux programmes engagés, l'accident d'Harrisburg érode durablement la foi des Américains en l'énergie nucléaire. En Allemagne, des militants antinucléaires, pacifistes, féministes et ceux catholiques ou protestants du mouvement de la paix décident de s'unir et d'incarner leurs espoirs et utopies autour d'un projet d'écologie politique. Comme un signe des temps nouveaux, deux femmes prennent en main la création de ce nouveau parti, les Grünen, les Verts. La théologienne, fille d'un pasteur, Eva Quistorp, et, dans la lumière, la politologue internationale, Petra Kelly. Les élections européennes du mois de juin 1979 seront la première occasion pour le jeune parti d'entrer dans le jeu démocratique. C'est avec plus de foi que de moyens que les Grünen se lancent dans ce joyeux combat. Quelques mois plus tard, Jimmy Carter sera humilié par la prise d'otage à l'ambassade américaine de Téhéran, ce qui sonnera le glas de sa présidence. Ce jour-là, poursuivant son discours, il emprunte aux démons qui se sont emparés de l'époque les mots qui bientôt fleuriront dans la bouche des politiques à travers le monde. Pour rassurer son peuple, il fait appel à la grandeur passée, aux valeurs traditionnelles et à l'aide de Dieu. Quelques mois plus tard, Saddam Hussein, le dictateur à la tête de l'Irak depuis le 16 juillet 1979, le président séculier d'un pays qui ne condamne pas l'homosexualité, celui qui se veut, avec l'Arabie saoudite, l'allié incontournable des Occidentaux au Moyen-Orient, fait lui aussi appel à Dieu pour défier Khomeini et l'Iran. Pour appeler son peuple à lutter contre l'expansionnisme de la révolution iranienne et espérant asseoir sa domination sur la région, Saddam Hussein ravive le schisme de l'islam, l'antagonisme historique entre chiites et sunnites. Le 22 septembre 1980, l'armée irakienne pénètre en Iran. L'ayatollah Khomeini, qui lutte encore pour imposer son régime totalitaire, voit dans cette agression un moyen de consolider définitivement son pouvoir. Utilisant un nationalisme qui ne tolère aucune dissidence et décrétant la guerre sainte, il unit le peuple par la force et fait triompher définitivement sa révolution. Pour arriver à ses fins, la propagande iranienne fait des femmes vêtues d'un tchador noir les nouvelles héroïnes d'un pays où chacun doit être prêt à se sacrifier pour repousser l'ennemi, les armes à la main. Saddam Hussein et ses soutiens saoudiens espéraient un conflit de quelques jours. Mais la guerre aura duré 8 ans et fait plus d'un million de morts. Et elle aura permis à l'ayatollah Khomeini de s'imposer comme le mentor d'une alternative chiite à l'islamisme sunnite. Un an après son élection, Margaret Thatcher confirme que sa cure libérale n'a pas provoqué les résultats escomptés. Son avenir politique semble alors incertain. Mais à la fin de 1981, le président argentin Leopoldo Galtieri lui lance un défi en partant à la reconquête des Malouines. La dictature argentine voit dans cette revendication belliqueuse un moyen de détourner le peuple de ses difficultés économiques. L'image de l'Union Jack, à la une de tous les médias britanniques, flottant à nouveau en haut d'un mât à Port Stanley, la capitale des Malouines, assure à la Dame de Fer une prochaine réélection, qui lui donnera enfin les moyens d'engager des réformes économiques et sociales radicales. 40 ans après la conférence de janvier 1979, qui a accueilli en Guadeloupe les quatre dirigeants des principales puissances occidentales, la soufrière n'est pas entrée en éruption. Le calme semble régner sur Terre. Pourtant, certains des acteurs des événements de 1979 portent sur leurs engagements de jeunesse un regard critique qui éclaire notre monde contemporain.
La Chine est aujourd'hui le plus sophistiqué des régimes totalitaires que le monde n'ait jamais connu. Si vous ne considérez que les perdants, vous faites de tous des perdants, car vous cessez de réformer.
Les bases de la politique économique se sont effondrées, elle est devenue plus dure. La société est plus conservatrice, plus compétitive, plus intéressée à faire de l'inégalité un bénéfice que de l'égalité un bénéfice.
Nous aurions pu donner plus de droits sociaux à la société. Elle l'attendait. Mais nous ne l'avons pas fait parce que nous avions toujours cette peur que nous puissions détruire notre économie.
Ce que les politiciens veulent, c'est un alibi. Et montrez-moi à travers l'histoire plus cohérent et plus facilement reconnaissable comme alibi que l'étranger, l'immigrant, le bureaucrate, Bruxelles.
Les capitalistes occidentaux n'ont pas un idéal de démocratie ou de liberté. Les politiciens chinois n'ont pas un idéal communiste. C'est l'argent qui les unit et ils ont tissé un lien solide. 10% de la population mondiale possède plus que les 90% restants. C'est le résultat du capitalisme.
La corruption n'a jamais été aussi totale en Iran qu'aujourd'hui. La pauvreté n'a jamais été aussi galopante qu'ici. La différence de classe sociale n'a été aussi évidente qu'aujourd'hui. Et la répression est à son comble. Voilà l'ordre moral.
Aujourd'hui, nous vivons un grand échec de l'héritage de Jean-Paul II. Si on simplifie ces idées, elles peuvent nous amener jusqu'au populisme.
Toutes mes réflexions, mes idées politiques, sont éclipsées par ce qui est infligé à la planète.
Aujourd'hui, personne ne se souvient que le 23 juillet 1979, 44 scientifiques remettaient au président Jimmy Carter le premier rapport sur le réchauffement climatique. Ils prévoyaient que les émissions de CO2 doubleraient d'ici 2030, que la température de la Terre augmenterait de 3 degrés. Et ils s'alarmaient des conséquences socio-économiques catastrophiques. Malgré la publication de nombreux autres rapports, leurs prédictions de 1979 s'avèrent toujours d'une actualité criante.